Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Aurore au micro, une maman belge mariée à un Mexicain vivant à Mexico City, je vous le donne dans le mille, au Mexique. Elle nous raconte la rencontre avec son mari en Europe, suivie de leur décision de vouloir s'installer en Amérique centrale, au Mexique, pays dans lequel ils fonderont leur famille avec leur petit garçon. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Aurore.
Bonjour Cindy.
Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
Merci pour l'invitation.
Écoute, j'aimerais bien, maintenant comme d'accoutumée, pour, avant de démarrer, que tu te présentes, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille.
Alors, je m'appelle Aurore Courtois, je suis belge et j'habite là au Mexique depuis 6 ans maintenant. Et je suis chercheuse en physique, donc ici à l'Université nationale autonome du Mexique, à Mexico City donc. Et dans ma famille, c'est mon mari, Eduardo, qui est lui mexicain, et mon fils, Ajax, qui a 3 ans et demi.
Ouais. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup parce que tu es la première Belge que je reçois sur ce podcast et ça me fait très très plaisir, voilà, qu'on ne reste pas qu'entre coqs français. voilà, c'est un podcast francophone. J'aimerais bien alors donc du coup qu'on fasse une petite rétro européenne, à savoir un peu ce qui t'a fait débarquer à Mexico City, à savoir un peu par exemple comment tu as rencontré ton mari par exemple.
Et ça a commencé très tôt parce que j'étais expat déjà enfant, c'est pas expat étrangère, non, mes parents habitaient en Allemagne, c'était avant la chute du mur de Berlin. Ça me donne un coup de vieux comme ça, mais voilà. Et donc j'ai grandi en Allemagne, dans des communautés belges évidemment, donc c'était un peu des espèces de ghetto. Et puis, et puis malheureusement, c'est vrai, hein, c'est une chose qui reste et on a la bougeotte, hein, il n'y a rien à faire. Et donc, après mes études de physique en Belgique, j'ai décidé de faire mon doctorat en Espagne. Et donc, j'ai trouvé une bourse, donc ça a aussi aidé. Et donc, j'ai fait mon doctorat à Valence, en Espagne. Et puis après, la recherche, c'est un peu ça, on est un peu obligé de bouger. Et donc, j'ai fait un post-doctorat, donc après le doctorat à Pavie, près de Milan, en Italie.
Oui.
Et puis après, je suis rentrée en Belgique, et puis j'ai fait encore un an à Rome, et là, on a sauté directement vers le Mexique. Donc, j'ai rencontré mon mari quand je commençais mon premier post-doc en Italie, lui était en Espagne. Et donc, on a fait les fameux couples Ryanair, c'était la mode à l'époque. Et voilà, il y en avait beaucoup, hein, des couples Ryanair. Et donc, c'était tous les 2-3 week-ends, on se voyait. Et quand j'ai déménagé en Belgique, lui a déménagé à Rome. C'était bien pratique. Okay. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit c'est suffisant. Et donc, j'ai décidé de partir à Rome en contrat toujours belge, mais en étant à Rome.
D'accord. Et lui, il est de quelle nationalité alors?
Il est mexicain.
Alors, qu'est-ce qu'il faisait en Espagne? Il faisait comme toi de la recherche?
Exactement. Donc, il est aussi physicien. Donc, voilà, c'est bien.
Oh, et, sympa ou quoi?
Sympa. Et là, c'est très nerd, hein, comme on dit. Ce serait quoi le mot français pour nerd? Enfin, bref.
Des geeks. Oui, je crois que c'est le même mot.
Ouais, c'est le mot.
Je crois qu'il n'y a pas de mot en français. C'est Big Bang Theory, quoi.
C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Et donc, on s'est rencontrés dans le bureau. J'étais étudiante. Donc, je finissais mon doctorat. Je commençais presque le post-doctorat et lui arrivait du Mexique à faire son post-doctorat en Espagne.
Et donc, ton mari avait fait une demande de bourse pour lui aller en Espagne et puis après en Italie, c'est ça?
Oui, et bien en fait, on fait des demandes pour aller un peu partout, donc on ne fait pas une demande vu qu'il y a beaucoup. Donc, on en fait un peu partout et c'est toujours un peu le stress pour les couples en post-doc, c'est qu'on ne sait pas sur quel continent on va se retrouver. Quoi. Donc,
Donc, du coup, vous avez fait combien d'années le couple Ryanair, comme tu l'appelles?
Alors, on a fait ça pendant 4 ans.
4 ans, la vache. Ouais. Alors attends, toi, ça t'intimidait pas le fait qu'il soit mexicain? Parce que je sais qu'il y a une toute petite différence de langue entre l'espagnol de Valencia et Mexico aussi.
Une énorme différence.
Oui. Ah ouais, pardon, une énorme.
Oui, justement, après 4 ans à faire l'effort pour avoir la theta et tout ça, et bien, c'était la poubelle, quoi, j'en ai plus besoin. Voilà, donc oui, mais finalement, ben voilà, donc il y a eu... comment dire, c'est un peu comme ton français et mon français, il y a des choses qu'on sait et qu'on apprend sur le tas, mais quand tu comprends pas le mot, tu demandes et tu dis « ça veut dire quoi? Pardon ?» Ça a été plus dur avec ma belle-mère, par contre, oui, ça c'était beaucoup plus dur parce qu'elle vient d'un petit village au Mexique, et alors au début c'était « s'il te plaît, traduction, quoi, je comprends absolument rien. »
Ah oui, voilà. Voilà. Rigolo. Et alors attends, Eduardo, il savait parler français?
Non, toujours pas d'ailleurs. Mais il s'améliore là avec les chansons pour enfants. Il comprend beaucoup plus qu'avant.
Ouais.
Il comprend beaucoup plus. Et mais il dit merci.
C'est pas mal.
Merci. J'ai dit non. Tu dis ah, c'est pas le gros mot qui commence par mère. C'est merci. C'est pas merci. Et donc voilà. Donc il apprend avec l'école en ligne finalement, parce qu'on est encore en ligne ici au Mexique. Les écoles n'ont pas ouvert depuis le 20 mars. Et donc finalement l'école en ligne c'est pas mal parce que ça permet à mon mari d'apprendre le français aussi.
C'est vrai que c'est pas mal.
Avec Ajax.
Donc à quel moment vous décidez de partir pour le Mexique?
Alors, c'était un peu le hasard et un peu, bah, comme toujours. Donc, on savait qu'à un moment, on voulait commencer à faire des demandes. Il n'y a plus de bourses de postdoc, mais plutôt commencer à chercher quelque chose d'un peu plus permanent, ce qu'on appelle junior ou tenure track, c'est le terme. Okay. C'est le, je sais pas comment t'appelles ça, je te laisserai traduire le tenure track.
Et, mais la voie vers un tenor en général, ouais, c'est genre ça, un ouais. Champion quoi. C'est,
bon, voilà, ouais. c'est
je pense que ça va de soi quand même.
pour nous, oui, mais c'est vrai que ça devient un peu un jargon. Donc voilà. Et donc on a commencé à se dire qu'on devait trouver un pays où on pouvait tous les deux avoir un poste, ce qui n'est pas évident. Et en Europe, c'était un peu. Et c'était après la crise de 2008. Ça me fait aussi un coup d'œil. C'était quelques années après quand même. C'était quelques années après la crise de 2008 et aucun pays ne se récupérait vraiment. Et d'ailleurs, il n'y en a aucun qui s'est récupéré jusqu'à maintenant. Et je pense que là, ça va pas aider non plus à ce qu'ils se récupèrent. Et donc, c'est une crise qui a eu un impact très très fort sur tout ce qui est bourse et poste dans la recherche.
Ouais.
Et aussi, donc les États-Unis, c'était un peu compliqué déjà parce que mon mari, il est pas très pro États-Unis. Il est mexicain, donc c'est toi, t'es à fond pour, toi, t'es à fond contre. Et lui, il est à fond contre, donc voilà.
Oui.
Et donc...
comprendre.
Oui. Et donc, on cherchait un endroit où on aurait pu être tous les deux. Et en sachant que mon mari a un très, très bon CV, le mien n'est pas mal, mais bon, c'était quand même, c'est lui la tête de la famille. Qu'est-ce que mon fils développe la sienne, hein, ça, on ne sait pas encore ce qui va se passer. et donc, on s'est dit, ben voilà, on va voir ce qui se passe. Et il y avait une conférence au Mexique et on avait commencé à décider de faire un peu de lobby sur plutôt de se montrer en tant que couple au Mexique. Donc ça marche un peu comme ça où les gens te connaissent et si les gens ne te connaissent pas, bah ils t'invitent pas quoi. Donc on voulait se faire connaître comme possible possible candidat pour avoir un poste. Donc ça marche comme ça. Donc c'est les conférences,
c'est le réseau quoi.
C'est le réseau exactement. Et donc moi j'avais pas de réseau au Mexique et donc voilà, donc on est venu je pense que j'ai fait un voyage aux États-Unis, donc j'ai des collègues surtout en Virginie. Et donc de là, ben, c'est super proche. Donc tu vas de DC à Mexico, c'est 4 heures de vol, donc c'est pas grand-chose. Ouais, c'est pas grand-chose. Ça dépend. Pour un Européen, Ryanair, c'est beaucoup, mais sur ce continent, 4 heures, c'est rien du tout. Donc, donc voilà. Et donc, je pense qu'on a fait un ou deux sauts comme ça. Et donc voilà, et donc on a postulé pour un poste. Mon mari l'a eu. Donc on a postulé les deux pour le même poste. Et les gens ne savaient pas qu'on était un couple. C'est lui qui a gagné. Et tant que c'était l'un des deux qui gagnait, c'était déjà quelque chose. Hein,
oui,
voilà.
C'est clair.
On ne pouvait pas gagner tous les deux, il y avait qu'un poste. Donc voilà. Et donc, et moi j'ai réussi à venir avec mon contrat belge qui me laissait la possibilité de voyager avec ce que j'avais comme contrat, et donc en justifiant évidemment, donc j'ai justifié que j'allais travailler ici. Et voilà, et pendant ce temps que j'étais en ce contrat belge, j'ai trouvé un travail, d'abord à Guanajuato, qui est
c'est où,
400-500 km d'ici.
Ouais, d'accord.
C'est pas très loin pour le Mexique, ça reste le centre, hein. Donc voilà. Et voilà, et puis après j'avais postulé pour revenir vers Mexico, parce que c'est bien d'être à 500 km,
mais...
Ouais, exactement, et... Bah, finalement, c'était une expérience intéressante de me retrouver seule après. Donc, c'était après 6-7 mois, je pense, au Mexique, seule dans une ville ultra-catho, très, très, mais très provinciale dans le sens où...
Traditionnelle.
Exactement. Ouais. Donc, et donc, j'ai justement postulé avant, comme on postule un petit peu partout à la fois. J'ai eu une autre offre pour Mexico et c'est comme ça que je suis revenue sur la grande ville, la métropole.
Alors, à quoi ça ressemble la vie à Mexico City? Parce que moi, de l'image que j'en ai, parce que j'habite aux US maintenant, donc ils disent que c'est extrêmement dangereux, que tu peux te faire kidnapper à chaque coin de rue dans ta voiture, que tout est corrompu.
Oui, c'est vrai. Oui.
Je sais.
Ça dépend beaucoup des quartiers. Donc, ça dépend des quartiers que tu considères. Il y a les quartiers avec l'étiquette expat, hipster, branchouille. Ces quartiers-là sont aussi dangereux. Hein, donc, je pense qu'il n'y a aucun quartier où tu peux vraiment te promener sans être un peu dans un état d'alerte, entre guillemets. Donc, par exemple, ce qui pour moi était difficile au début, c'était traverser la rue. Traverser la rue, ça a l'air très, très simple, mais en fait, ici, non, parce que les voitures ne font pas attention au feu rouge, parce que parfois, il n'y a pas de feu rouge. Souvent, il y a de feu rouge que pour les voitures, pas pour les piétons. Il n'y a pas de passage pour piétons. Et donc, voilà, donc c'est des genres de choses quand on arrive, quand on est européen, on ne fait pas attention. Donc,
c'est surtout qu'attends, j'ai le cousin de Mac qui habite à Mexico City qui me disait surtout qu'ils n'avaient pas de permis de conduire là-bas.
S'il y a un permis, tu l'achètes. Il n'y avait pas d'examen. Ouais. C'est ça.
Oui, il y a un truc comme ça où genre, tu peux avoir zéro expérience que tu peux être derrière ton volant, quoi.
Exactement. Et donc, moi, j'ai eu cette expérience. Donc, j'avais passé mon permis il y a très longtemps. Tu sais, il fallait que je l'aie parce que j'avais 18 ans et donc il fallait que je l'aie. Voilà. Je l'ai eu. Ouais. C'était une expérience traumatique avec mon père. Et voilà, j'ai conduit trois fois dans ma vie. Et voilà. Et en revenant justement à Mexico, donc à l'époque. Là maintenant je suis à La Unam qui est au sud de la ville, mais à l'époque j'avais un travail donc au nord, donc c'est Politecnico qui est tout au nord et qui justement est une zone un peu plus dangereuse et qui est d'ailleurs pas très recommandable. Et donc mon mari me dit hors de question que tu ailles en métro, voilà. Parce que elle va être la seule fille, la peau si pâle, et en plus tu mets des jupes, alors j'imagine même pas, blablabla. Et donc voilà, donc j'ai dû apprendre à conduire. Alors moi j'ai pris des cours, hein, parce que je me dis j'ai pas envie de mourir quand même, donc voilà. Donc j'ai pris des cours et donc j'ai appris à conduire. Je me suis lancée seule avec une voiture d'occasion qui est toujours entière, la voiture d'ailleurs. Et donc j'ai commencé comme ça après quelques cours à conduire seule dans les quartiers quand même pas très fréquentables de Mexico. Et donc j'avoue que donc c'est une automatique. Alors mon père me dit comment ça c'est pas conduire, j'écoute papa, je vais d'un point A à un point B en restant vivante, voilà. Donc
c'est automatique. Ils ont des boîtes manuelles de toute façon au Mexique?
Oui,
ou pas?
Oui, ça existe.
Ah ok,
ouais. Et voilà, donc c'était intéressant et conduire, c'est très stressant, hein, malheureusement. Donc, j'ai pas beaucoup d'expérience et je pense que là, maintenant, je conduis comme une Mexicaine. Voilà, donc,
ouais. Ça veut dire quoi? Alors, du coup, tu vas là-bas vite, tu klaxonnes à droite, à gauche, comment ça?
Mais comme il n'y a pas vraiment de règles, donc par exemple, si tu mets ton clignotant pour tourner, ben, les gens vont accélérer pour ne pas te laisser passer, tu vois. Donc, c'est comme ça que j'ai eu mon premier accident.
Donc, ils sont assez agressifs?
Ils sont très agressifs, très agressifs. Donc, il ne faut pas que tu montres ce que tu vas faire, il faut que tu le fasses très vite, sans qu'ils se rendent compte que tu vas le faire. Et donc, voilà, c'est un peu ça, il n'y a pas de règles.
Ouais. Bon, ben, tu ne me donnes pas envie d'aller... Ma nature anxieuse ne me donne pas envie de... de conduire au Mexique. Et alors, comment ça se passe, alors, la vie sur place? Parce que de ce que je comprends, tu vis... en tout cas, si tu as les moyens, quoi. De ce que je comprends, tu vis entre quatre murs avec un chauffeur, quoi.
Non, ça, c'est vraiment les gens très riches. Hein. Donc, c'est vraiment les gens très riches. Et souvent, ça dépend aussi. Donc, ça dépend. Donc, beaucoup de Mexicains sont un peu dans ce style-là. L'exposition de la bourgeoisie, l'exposition de vraiment exposer et montrer qu'ils sont riches. Mais par exemple, je pense qu'il y a beaucoup d'expats, vrais expats ou européens qui ont encore un salaire européen, je pense. Donc les expats qui vivent à l'européenne. Donc il y a des quartiers qui sont c'est des quartiers justement, on parlait de l'article dans New York Times qui est sorti sur les Américains qui viennent vivre à Mexico. C'est des quartiers où il y a des parcs, tu peux marcher, donc il y a des quartiers où tu peux vraiment marcher, voilà, et t'as pas besoin de la voiture. Et donc c'est des quartiers où en général tu trouves les Européens, où tu trouves les hipsters, c'est un peu le Brooklyn de New York. Et donc c'est entre parcs, boulangeries françaises, tout ça. Donc, il y a des gens qui disent, on ne trouve pas tortilla. Donc, tu trouves le croissant, tu trouves la baguette, mais tu ne trouves pas la tortilla. Donc, voilà. Donc, ça existe, ces quartiers. Et d'ailleurs, on habitait un de ces quartiers quand moi, tu travaillais au nord et mon mari au sud, parce que c'était juste en plein milieu. Donc, c'est pratique. Ouais. Et par contre, c'est des quartiers un peu plus chers. Voilà. Donc ça dépend où tu habites, évidemment. Ce qui est vrai, c'est que c'est un peu dangereux partout, c'est clair. Il y a des quartiers où c'est beaucoup plus dangereux que d'autres. Il faut faire attention partout, évidemment.
Oui, mais c'est comme à Paris, je veux dire. On va pas te mettre un pistolet sur la tempe à chaque coin de rue, quand même.
Ça dépend des moments. Donc en période d'élection, par exemple, ça arrive. En période d'élection, ça arrive. Même dans les centres commerciaux qui sont un peu branchouilles, il y a eu des accidents en période électorale, par exemple. Oui, ça arrive.
Elles sont toutes les combien de temps, les périodes électorales?
Tous les 6 ans.
Toutes les... Oh, c'est vrai que c'est long pour vous, c'est vrai que c'est long.
Surtout quand on a les présidents.
Voilà, mais, interminable.
Voilà, donc voilà, personne de présentable se présente, on va dire. Donc voilà, on a ce qu'on a. Hein, donc, voilà.
Bon, c'est une aparté politique.
Voilà.
Donc la vie suit son cours, j'imagine. Alors à quel moment vous parlez potentiellement de mariage ou d'étendre votre famille?
Alors le mariage, c'est venu comment? Je pense que c'était mon idée. C'est rarement l'idée du mec, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et comment ça s'est fait? Je pense qu'à un moment, on a commencé à penser à acheter un terrain ou avoir une maison de, pas de vacances, mais avoir un peu plus vers le futur. Ça, c'est aussi le côté belge. On dit que les Belges ont une brique dans le ventre, et donc voilà. Donc en sachant que les pensions, c'est pas comme en Europe ici, donc c'est pas trop si on aura, oui, combien ça va être, est-ce que c'est, enfin, donc il faut penser un petit peu. Et le côté préventif, c'est le côté européen, parce que les Mexicains pensent absolument pas au futur. Et souvent, c'est parce que la plupart des Mexicains doivent vivre au jour le jour. Hein, donc, c'est pas non plus une critique qui est vraiment valable. Et je trouve aussi que le côté européen, en tout cas les Belges, c'est un peu trop, ils sont trop casaniers. Donc, c'est un peu trop la maison, la maison, la maison. Donc voilà, il fallait un juste milieu. Et d'ailleurs, selon beaucoup de mes amis belges, quand j'ai eu 30 ans et que j'étais pas encore mariée, c'est « Ouh, aurore ». Aurore, catastrophe, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? T'as pas de maison, t'as pas de voiture, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, mais c'est quoi ton problème, non? Et donc je suis pas du tout dans cette dynamique-là, mais à un moment je me suis dit, bon, voilà, ce serait peut-être bien, vu qu'on devrait rester ici au Mexique, de commencer à penser à ça. Et donc là, les banques, on était voir deux, trois banques, et les banques disent, c'est mieux si vous êtes mariée, hein, et parce que c'est plus simple pour les questions de bureaucratie, tout ça. Et donc c'est pas là qu'on s'est marié, mais à un moment on s'est dit, ben si on veut rester longtemps au Mexique et qu'on veut commencer à avoir quelque chose d'un peu plus stable, peut-être que ce serait bien de se marier. Et donc voilà.
Ok. Et donc vous trouvez un terrain?
Donc on n'a pas acheté de terrain, on a acheté un appartement longtemps après parce que le terrain c'était compliqué, mais enfin bon, il y avait l'idée était là, donc voilà.
Ok. Et alors à quel moment vous décidez d'étendre la famille?
Ben un peu avant déjà. Donc je pense que c'était déjà. C'est aussi le côté européen, la fameuse horloge biologique. Et donc, pendant très longtemps, mon mari, donc à l'époque, c'était mon copain, mon fiancé, je sais pas comment t'appelles ça. Et donc, souvent, c'était genre, ouais, mais je sais bien qu'on voudrait avoir un enfant un jour, mais c'est toujours, mais tu sais, là, toi, t'es en Belgique, moi, en Italie, et puis il y a toujours une histoire, et puis là, on est au Mexique, mais on n'a pas encore de poste permanent. Il y a toujours une excuse, oui, et puis à un moment, j'ai fait, c'est épuisant, les excuses, là, hein, c'est bon. Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu? Toutes mes amies ont mis un an à tomber enceinte, tu vois, ouais. Alors, tu sais, là, je commence à avoir, tu vois, un certain âge. Et donc, voilà, à un moment, il a dit, ok, c'est bon, j'ai compris, j'ai plus d'excuses. Et voilà. Et donc, on n'a pas attendu un an. Je pense qu'on a attendu exactement un mois. Et voilà.
Ah, donc il est arrivé super rapidement,
super rapidement, oui.
Ah, c'est génial.
Ouais.
Et comment ça se passe, alors, le suivi d'une grossesse au Mexique? Comment ça se passe? Est-ce que c'est très médicalisé, par exemple?
C'est très médicalisé. Et alors, j'ai eu la chance, entre guillemets. Donc, je ne sais pas du tout comment c'est dans d'autres pays. Hein, j'avoue que c'était ma seule expérience. Et je ne me suis pas beaucoup intéressée aux grossesses de mes amis. J'avoue que ce n'était pas du tout mon intérêt à l'époque. Donc ouais, c'était un peu une inconnue pour moi aussi, c'est comment ça se passe la grossesse. Et j'avais déjà un gynécologue qui avait plein d'appareils super branchouilles et tout ça, donc on a pu voir la petite crevette déjà. J'ai dit, c'est quoi ce point-là? On peut déjà le voir, donc c'était impressionnant. Et j'ai eu la chance, donc il y a pas mal de groupes Facebook de parents expats ou tout ça, et donc il y avait un groupe, ça s'appelle les parents francophones au Mexique, je pense, un truc comme ça.
Okay.
Et donc la responsable, donc c'est la fille qui a créé le groupe, et d'où là. Marion, si tu m'entends, je lui ai envoyé. Marion s'appelle Marion. Et donc justement, elle faisait pas mal de, pas de publicité, mais elle mettait de temps en temps un petit peu d'annonce sur sa page pour les choses pour les doulas. Donc elle commençait à dire un petit peu ce qu'on appelle l'accouchement humanisé, c'est ça? Sinon je dois penser maintenant en espagnol, l'accouchement humanisé. Et donc je connaissais pas trop, et à un moment mon gynécologue commençait à vraiment un peu m'embêter, dans le sens où il me dit, bah voilà les hôpitaux, tu peux choisir ceci cela. Et alors, il m'expliquait dans les hôpitaux, ben tu vois, il y a la salle de préparation, la salle d'expulsion, la salle de babadar. Et je lui dis, mais comment? Parce que selon moi, j'avais une idée que c'était tout dans le même endroit, que mon mari pouvait être avec moi. Et que... Alors, il m'expliquait, non, tu dois arriver à Jeun. Mais j'écoutais, comment je vais arriver à Jeun à mon accouchement si ben, je ne sais pas quand ça va se passer. Donc, je vais manger. Quoi. Ah non, mais de toute façon, le médecin va le provoquer, ça va être planifié. Donc, tu vas arriver à Jeun. Et là, j'ai commencé à avoir un petit peu de doute. Et puis, alors, le médecin me disait, de toute façon, vu ton âge, donc j'avais 33 ans à l'époque.
Ça donc, va.
Ouais, j'avais 33 ans à l'époque. Vu ton âge, ça doit être césarienne. Et je fais, comment ça, césarienne? Et justement, j'ai eu des amis et les femmes de collègues qui avaient eu un peu le même cas, donc une amie qui était un peu plus âgée. Et il a fait croire qu'elle aurait pu avoir un accouchement naturel, puis c'était césarienne. Une autre pareille aussi. Et donc, ce qu'ils font souvent au Mexique, c'est qu'ils retirent le bébé, donc ils le prennent et ils le mettent dans les... comme on avait dans les années 60, tu vois, où tu mets tous les bébés ensemble, ça s'appelle comment?
Oui, je sais plus comment ça s'appelle. La pomponnière, non?
Ouais, un truc comme non, ça. Ça n'existe plus dans le dictionnaire parce que ça n'existe plus.
Mais oui, mais parce que je crois que... Non, comment ils appellent ça? Ici, enfin, je veux dire, ils gardent tes enfants si tu dois aller prendre une douche, donc c'est un nom, c'est le birth... Je sais plus, franchement, je sais plus. Bon, bref, c'est pas bien grave. Quelqu'un nous le rappellera pour nous.
Exactement. Et donc, là, ils commencent à lui donner du lait en poudre et tout ça, parce que souvent, tu dois te reposer. Et donc, tous mes amis, ils commençaient à me dire... Enfin, les amis ou les collègues ou les femmes des collègues commençaient à raconter ça, et j'ai commencé à un peu stresser. Et c'est là où, justement, je rentre sur Facebook et je vois l'annonce de Marion et tout ça, doula, je sais quoi, une doula. Et alors, j'ai commencé à lui écrire et puis elle me dit, écoute, je vais t'appeler. Elle commence à m'expliquer et tout. Et alors, je me dis, ça a l'air intéressant. Et, et donc, voilà, on programme une première rencontre. Justement, on n'avait pas fait encore le cours de préparation à l'accouchement.
À l'accouchement.
Et donc, ouais. On s'est dit, ça va être l'occasion. Donc, on va faire le cours de préparation à l'accouchement. Et elle dit, bah, si après, vous êtes intéressé, bah, on peut amplifier ça et je pourrais être votre doula, quoi. Et donc, ça a été une espèce de révélation. Et c'était même plus que ça. Et à un moment, elle me dit, en toute franchise, elle dit, écoute, Aurore, ce que tu racontes de ton gynécologue, j'en ai vu plein, des comme ça. Il te fait croire que tu vas pouvoir avoir un accouchement naturel. Et puis, en fait, il va te dire que pour telle raison ridicule, c'est pas possible. Et puis, je commence à réfléchir. Le gynécologue, il a plein de patientes, énormément de patientes. Et on se rend compte que c'est pas possible qu'un gynécologue qui ait plein de patientes enceintes puisse vraiment être un accouchement naturel pendant 8 heures, quoi. C'est impossible, impossible. Mmh. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, pour que ce soit possible dans son agenda, il doit les provoquer chaque fois. Donc, il n'y a pas d'autre façon. Donc, c'est la seule chose qu'il peut faire. Et donc, à un moment, je pense que c'était la nuit la plus longue de ma vie, là où j'ai moins dormi, mais finalement, j'étais quand même, c'était important. On va voir le gynécologue, on passe à 10 heures du soir au lieu de 6 heures, tellement il y avait des gens et il y avait du retard. Et puis, je lui dis, écoutez, en plus, on parlait d'épisiotomie et je lui dis, écoutez, justement, une question, parce que Marion me dit, pose-lui telle question pour voir un petit peu ce qu'il pense. Et alors, oui. Je lui pose la question et puis il me fait, évidemment que je vais te la faire. Et je lui dis, mais pourquoi? Parce que sinon, tes organes vont tomber. Je lui dis, écoutez, je suis scientifique, vous n'allez pas non plus. Et alors, je me suis fâchée et alors, il a dit à mon mari, ne la laisse plus lire de livres. Et là, ça a été genre... Et voilà, et donc je pense que j'ai dû parler à Marion le lendemain, j'ai dit, t'as raison, je vais voir d'autres hôpitaux, et j'ai visité un autre hôpital, je pense, avant, qui avait genre une salle tout en un, où tu rentres, et là, tout se passe là, en fait, et il y avait même le jacuzzi, la baignoire,
ouais.
Pour accoucher, pour l'accouchement, donc j'ai commencé à appeler un autre gynécologue, qui était un gynécologue plutôt reconnu apparemment pour ses techniques d'accouchement dans l'eau et tout ça, l'accouchement humanisé.
Plus naturel,
oui. Exactement, et voilà. Et donc, j'ai changé d'avis, je pense que j'étais enceinte de 7 mois quand j'ai changé d'avis. Voilà.
C'est incroyable ce qui t'a sorti, l'autre.
Mais c'est très courant, et donc après j'ai commencé à découvrir que beaucoup d'amis ou des sœurs ou des cousines d'amis avaient eu des problèmes de violence obstétrique, donc celles qui accouchent dans les hôpitaux publics, c'est un peu c'est comme ça, et en plus elles font des espèces de césariennes d'animaux, donc elles sont vraiment comme au Moyen-Âge, quoi. Elles sont vraiment coupées, c'est la boucherie, quoi, c'est vraiment ça, c'est la boucherie, en plus c'est ouvre les jambes, tu les as ouvertes pour faire ton gamin, est-ce que t'es capable de les ouvrir maintenant, arrête de te plaindre, donc c'est vraiment des trucs, des histoires terribles d'accouchement, donc avec l'expérience avec Marion était très positive. Et donc, j'ai eu un accouchement magique, merveilleux, génial. Voilà, c'était très bien.
Ok, donc toujours dans un hôpital public?
Non, c'était
le
privé. Donc, du coup, déjà avant, c'était sur le privé parce que les publics, c'était compliqué déjà pour moi. Et puis, bon, il y a les questions d'assurance, c'est très compliqué. Donc, si les Européens nous écoutent, les assurances, c'est la catastrophe sur ce continent. Mais bon, j'ai réussi à avoir une assurance qui plus ou moins couvrait ça. Mais souvent, à l'époque, on n'avait pas d'enfants, donc on n'avait pas le problème qu'on a maintenant de penser aux économies. C'est quand les enfants naissent, tout change. Et donc, finalement, j'ai été sur un hôpital privé, c'est déjà privé à l'époque. Et justement, l'hôpital qui justement fait qui a des salles d'accouchement humanisées, comme ils disent, c'est souvent moins cher aussi, parce que tu n'as pas besoin d'avoir 3 salles, tu n'as pas besoin d'anesthésie et tout ça, donc c'est moins cher. Donc c'est très bien aussi. Et d'ailleurs, l'assurance ne voulait pas me croire, ils m'ont dit, il manque un document, il faut que tu donnes absolument un document avec le devis des médecins, tout ça, et aussi le devis, ou je ne sais pas comment tu appelles ça, pour l'anesthésiste. Et je dis, il n'y en a pas. C'est pas possible, c'est impossible, on a besoin du document. Donc j'étais voir mon gynéco, je lui ai dit écoutez, faites-moi un papier en disant le nom d'un de vos collègues et combien ça va coûter, parce que sinon l'assurance ne va pas pouvoir me laisser finir le document. Et donc voilà.
C'est flippant, c'est extrêmement flippant. Parce qu'on a eu un épisode récemment en Argentine où on a eu un témoignage extrêmement similaire avec une césarienne et cette femme, Pauline, qui est justement devenue doula. Parce qu'elle s'est dit il faut faire passer le message aux femmes que cette boucherie doit cesser.
Oui.
Donc du coup, la césarienne est vraiment de monnaie courante en Amérique latine, tout du moins.
Et oui, parce que je pense que ça a plusieurs avantages. Et beaucoup de femmes sont aussi d'accord avec ça, hein, parce qu'elles disent que c'est plus hygiénique, c'est plus facile, il y a moins de risques.
Pourquoi c'est plus hygiénique?
Je ne sais pas.
De 10 cm quand même le corps. C'est quand même incroyable.
Et je pense que beaucoup ont peur de souffrir aussi. Alors, bon, ça, c'est tout un débat sur la souffrance, tout ça, mais je pense que je souffre plus après, hein, parce que j'ai vu des amis qui, pendant des mois, on va plus se lever parce qu'elles avaient encore la cicatrice. C'est souvent mal fait.
Exactement, c'est ce que tu me disais. Si en plus le truc est mal fait, bonjour les séquelles, quoi.
Mais ce qui est vrai aussi, c'est que ça arrive souvent. Donc, ici, on a quand même 10 millions d'habitants. Donc, t'imagines le nombre d'accouchements qu'il doit y avoir par jour. Donc, si tu penses, le nombre d'hôpitaux, il y en a pas mal, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'occupations d'avoir des femmes qui sont là pendant 8 heures ou 24 heures ou 36 heures en train d'accoucher. Donc, c'est finalement très pratique de te dire. Et puis aussi, au niveau des hôpitaux et des médecins, c'est que ça coûte un peu plus cher et puis t'en fais plus sur une journée. Donc, c'est très rentable de faire des césariennes. C'est très, très rentable.
Oh là là, mais c'est ce qu'elle dit, Pauline a dit, ça, c'est bien pour eux, mais pas pour les femmes, quoi.
Donc, et voilà, et donc j'ai jamais vraiment fait le calcul, je sais pas si ça existe, que j'aurais demandé justement à Marion, peut-être qu'elle doit savoir, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est faisable d'avoir des hôpitaux pour que toutes les femmes d'une ville aussi grande puissent accoucher de façon naturelle? Ça, je sais pas, par exemple, tu vois, parce que c'est vraiment, on est beaucoup quand même, hein, 10 millions d'habitants, donc c'est pas mal.
Oui, mais regarde New York, attends, New York, je crois qu'on est tout autant de, je vais regarder rapidement sur Google, et on nous laisse accoucher... par voie par voie naturelle entre guillemets, quoi, mais parce que non pas que la césarienne soit pas naturelle, mais enfin
par voie basse, on va dire, c'est quand même ça, mais oui, et d'après ce que j'ai compris aussi de pas mal d'amis en Belgique, je pense que en Belgique, et même aussi j'ai des cousines en France, tout ça, je pense que ce qui est complètement naturel ici, donc ce qu'on appelle l'accouchement naturel, ça n'existe pas vraiment non plus, ou juste dans quelques communautés très très hippies. Donc il n'y a pas forcément l'option d'accoucher dans l'eau, d'être debout et tout ça. Et donc ici, c'est soit l'un ou soit l'autre. Et je pense qu'en Europe, dans la plupart des commentaires que je connais de mes amis, ça reste par voie basse, mais c'est quand même épidural, c'est quand même couché, quand même... Donc voilà, donc c'est pas non plus très très naturel. Et je pense qu'il y a aussi des cas de violence obstétrique en Europe. Hein, donc...
Il y a 8,4 millions à New York, donc vous êtes quand même beaucoup plus nombreux. Mais il n'empêche que, après c'est au gouvernement d'ajouter des hôpitaux et de faire en sorte que tout se passe bien. Mais
mais je pense que c'est pas la priorité. Je pense qu'il y a d'autres priorités aussi, malheureusement.
Ce qui est quand même assez incroyable, parce que tu penses que de faire des bébés, c'est quand même une priorité pour un pays. Mais bon. Alors, donc, tu accouches dans ce centre de naissance, c'est ça?
Oui.
Dans une baignoire, comment ça se passe?
La baignoire, c'était à la fin. Donc, oui, donc il y a eu. Je m'en souviens pas très bien dans la façon temporelle. Donc, je sais pas si tu te souviens que c'est un peu flou. Hein, mais oui, donc c'était très, très naturel. Donc, j'ai pu être debout. Marion était là, mon mari était là, le médecin était là. Et donc, c'était très bien. Hein, voilà, c'était très rapide. J'ai eu beaucoup de chance aussi parce que c'était très rapide. Et parce que parfois, c'est même si on va accoucher par voie basse, j'ai une amie aussi qui était dans le même centre et tout, et ça finit en césarienne parce qu'après 24 heures, ben, mais voilà. Oui. Et donc c'est pour ça que c'est bien que ça existe, césarienne aussi, parce qu'il y a vraiment des cas où on en a vraiment besoin. Donc,
bien sûr.
Et donc moi, j'ai eu la chance que ce soit beaucoup plus
plus doux,
voilà, plus, je pensais smooth, donc c'est plus doux, c'est ça. Tout s'est passé comme dans les livres, hein, je pensais un peu ça. C'est voilà, j'ai arrivé contraction, j'ai perdu les os à la maison, là, je suis arrivée à l'hôpital, super. Et après 3 heures, voilà, le bébé était là.
Ah, bah, rapide et efficace.
Exactement.
C'est cool. Voilà. Et alors, comment ça se passe alors la rencontre avec Ajax?
Ça se passe bien, donc de suite il a voulu manger de suite, donc c'était intéressant aussi, donc c'était vraiment le fameux corps à corps avec le cordon qui n'était pas encore coupé, tout ça, et ouais, c'était très bien, et donc voilà, et puis, okay. Et puis la vie commence à 3, et là ben, c'est tout un chamboulement dans la vie, hein, donc ça chamboule les horaires, ça chamboule le sommeil surtout, et ça chamboule beaucoup de choses, oui.
Et alors, attends, combien de temps tu restes à l'hôpital?
C'est 24 heures au Mexique. Si c'est une césarienne, c'est 48. Et si c'est par voie naturelle, c'est 24 heures.
Ok. Et alors, le retour à la maison, est-ce que tu as de la famille, par exemple, qui vient te donner du renfort?
Non. Alors déjà, je voulais pas non plus que la famille mexicaine vienne, déjà. Donc, mon mari est du Nord, donc ils habitent dans le Nord. Et je voulais pas, parce que de toute façon, je ne voyais pas vraiment l'intérêt qu'ils viennent. Et non, ma mère est pas venue, mais je sais pas comment ta famille française, mais bah, ma mère en Belgique et mon père aussi, c'est un peu bah, comme beaucoup de parents par là, c'est bah, t'es adulte, hein, t'es adulte ma fille, voilà, donc tu te débrouilles. Et finalement, c'est pas plus mal parce qu'on n'a pas le poids de quelqu'un qui est là, qui donne son avis tous les 30 secondes. Parce que c'est aussi le problème, oui. C'est non, mais tu sais, l'allaitement, c'est bien, mais le bébé a faim, voilà, donc il y a côté positif et côté négatif. Donc,
mm-hmm. Je pense que ça dépend des familles. Est-ce que ton mari, est-ce que ça existe les congés parentaux au Mexique pour les femmes et pour les hommes?
Oui, ça existe selon le travail et selon donc il y a deux assurances. Non, il y a deux sécurités sociales différentes. Donc il y a deux systèmes différents et selon le système de sécurité sociale que tu as droit à un congé avant et après. Donc c'est 2 semaines avant, 2 semaines après ou un truc comme ça ou tout okay. Après. Okay. Alors, mon cas était un peu différent, c'est que j'ai changé de travail juste avant l'accouchement. Donc, j'ai signé. Mon fils est né le 8 mai, j'ai signé le contrat le 5 mai. Donc,
super. D'accord.
Et donc, j'avais droit, je pense, à autant de semaines, plus des vacances, tout ça. Mais évidemment, comme j'ai changé de travail juste avant, ben, j'ai pas voulu prendre des congés. Donc, j'ai pris le minimum. Donc, les vacances commençaient genre fin juin. Donc, j'ai pris du 8 mai à fin juin. Et les vacances en plus, et donc j'ai recommencé fin juillet à travailler. J'ai commencé le nouveau travail, donc j'ai changé okay. d'une université à une autre en fait. Voilà, donc c'était un peu bizarre, et donc officiellement j'ai pas pris mes congés. Ouais. Et mon mari a eu droit, je pense qu'il ouais. a eu droit à 2 semaines. Ouais.
Ouais. Sympa. Mais alors donc du coup comment tu t'organises une fois que tu dois retourner au travail? Est-ce que vous avez un système de crèche, est-ce que tu prends une nanny? Comment ça se passe?
Ouais, alors c'était toute une histoire. Donc la crèche, on l'a trouvée avant. Donc évidemment, là, c'est aussi à cause, ou grâce à toutes ces histoires de mes amis belges. Donc en Belgique, il y a tellement peu de crèches que les gens se mettent sur liste avant de tomber enceinte. Donc j'ai des amis qui étaient sur des listes en état de pré-enceinte. Tu vois, je veux avoir un enfant, donc je me mets déjà sur les listes. Parce que c'est un peu, il y a très peu de crèches parce qu'il y a beaucoup de normes à suivre et donc il y en a peu qui peuvent ouvrir. Et donc, j'ai commencé aussi à paniquer. Et donc, on a cherché des crèches. Et donc, à l'époque, on n'était pas sûr de savoir où j'allais être quand j'avais postulé pour changer d'université. Ouais. Mais c'est quand même une très grande ville avec beaucoup de trafic. Donc, c'est quand même pas facile. Et donc, j'avais repéré une crèche. Et donc, on s'était pré-inscrit. Mais je n'étais pas sûre que j'allais pouvoir. C'est une crèche qui est près de l'université où je suis maintenant, mariée aussi d'ailleurs. Et donc, quand j'ai su que j'allais avoir l'offre d'emploi, ben, on a de suite réservé cette crèche-là.
Okay.
Donc j'étais enceinte de 6 mois, je pense, à l'époque, 7 mois peut-être. Ouais. Et voilà, donc j'avais un déjà la crèche qui était super bien. C'est une crèche Reggio Emilia, je ne sais pas si tu connais le système. Ce n'est pas Montessori qui est très à la mode ici, donc c'est Reggio Emilia, c'est aussi un truc italien, mais c'est beaucoup plus autonomie de l'enfant, mais plus basé sur le côté naturel, tout ça. C'était super ouais. sympa. Et donc Ajax est rentré à la crèche à 3 mois.
Oh, voilà. Wow. Et comment tu... Attends, mais comment tu allais, toi, en tant que nouvelle maman, à devoir laisser ton tout petit newborn, nouveau-né, à 3 mois de vie, avec d'autres enfants?
Il y a une petite larme, hein, mais en fait, ça s'est bien passé, dans le sens où j'ai pas eu trop de remords ou ce genre de choses, parce que je pense que c'est aussi... Enfin, j'ai vu beaucoup de gens qui le faisaient en Europe, donc je pense que c'est pas vraiment un problème. Et puis la crèche est super bien, donc ils avaient genre... Les deux, c'est pas des instits, je sais pas comment t'appelles ça, c'est les deux presque nounous, elles avaient 6 gamins, c'est pas non plus... c'est pas non plus 40 bébés avec deux femmes, c'était genre 6 ou 7 bébés, quoi, tu vois.
Ouais,
et donc c'était vraiment une petite crèche dans une maison avec un jardin, tout ça, donc c'était super bien.
Ok, ouais, donc c'est un environnement quand même où tu te dis, bon, je le laisse pas aux os, quoi.
Exactement, donc ça c'était super bien. Et d'ailleurs, c'était pour lui, jusqu'au début du confinement, malheureusement, il arrêtait d'y aller. C'était un peu sa deuxième maison, parce que lui, voilà, c'était ses deuxièmes maman, tante, tout ça, je sais pas comment tu veux dire, mais lui, c'était naturel qu'il aille là, parce qu'il a commencé très petit. Et donc, on a pas eu non plus la crise du « on met l'enfant à la crèche et l'enfant veut pas y aller ». Donc lui, depuis qu'il est tout petit, voilà, il y est. Donc,
C'est trop cool, attends, vous avez pu garder la même crèche depuis tout ce temps-là? De 3 mois à 3 ans, là?
Jusqu'à donc le confinement a commencé, Jacques allait presque avoir 3 ans, ouais, donc oui.
C'est trop trop bien.
Ouais. Et donc là j'étais tranquille là-dessus, et puis alors moi je devais, je pompais mon lait, c'était super, magnifique, et donc il buvait mon lait pendant 6 mois, il a fait ça, donc c'était, donc il a juste, donc j'ai allaité tout ce temps-là, et comment dire, ce qui était un peu difficile c'était justement de reprendre, et c'est là où justement j'ai pas eu d'angoisse par rapport à ça, c'est que notre travail est tellement prenant, c'est vraiment un travail très, très demandant, la recherche, et donc recommencer dans un nouvel environnement avec des nouveaux collègues et tout ça, c'était un peu c'était beaucoup d'énergie aussi, donc c'était un peu difficile au début de pouvoir changer de rythme, parce qu'avant on travaillait un peu comme on voulait, donc la recherche ça a pas d'horaire, et donc si j'avais fini de faire mes recherches à 7h du soir, 8h du soir, ben, c'est pas grave, là c'était différent, donc il fallait absolument aller prendre le petit à la crèche, puis les nuits sont plus courtes, hein, tu sais bien, au début c'est pas la même chose, puis il fallait que je pompe le lait, c'était un peu difficile, donc j'ai pas eu beaucoup de remords par rapport à ça. Ce qui était très difficile, c'est justement de pouvoir combiner tout ça
émotionnellement,
oui, et d'être productive, donc ça a pris beaucoup de temps, ça m'a pris beaucoup de temps à retrouver un rythme de production.
Mais ce qu'ils disent, hein, moi en tout cas, une fois qu'il était né, même un tout petit peu avant, mon cerveau, autant te dire que il est toujours aux oubliettes, hein. Je sais pas où il est parti celui-là, mais
oui, je me souviens, j'ai
l'activité cérébrale, autant te dire que tu es en alerte pour tout ce qui concerne ton enfant, mais alors le reste, c'est de la futilité, quoi.
Exactement, je me souviens, donc il y a peut-être 7 ou 8 ans, j'ai une collègue avec qui je travaille beaucoup, donc qui est plus âgée que moi, elle a 20 ans plus que moi, même si on est super potes, et elle me disait à un moment, mais tu sais, cet article-là, on l'a écrit avec un tel bazar, et puis on l'a jamais publié parce que j'étais enceinte de ma fille, puis je venais d'accoucher, et là je comprenais absolument pas, je disais, c'est quoi, ben, c'était enceinte, accouche, voilà, ça doit faire mal, enfin bref, et tu dis, ouais, ben, à un moment, ben, c'est juste un état physique, tu vois,
et
alors là, j'ai compris après que c'était pas juste un état physique, et qu'en fait, c'est vrai que moi aussi, j'ai eu un peu du mal à retrouver un cerveau digne de ce nom, quoi, voilà. Mais oui.
Tu l'as retrouvé alors ou pas? Parce que moi, il est toujours missing. Hein.
Non, alors, je pense que le cerveau, c'est démontré. Hein, donc le cerveau s'adapte et le cerveau aussi, ben, c'est le côté maternel qui fait que ton cerveau se focalise surtout sur ton petit, ben, le faire survivre. Hein, donc c'est de la survie. Donc au début, tu te focalises plus sur la survie de l'enfant et le cerveau, ben, ça revient. Ce qui revient pas, c'est la tête fraîche, ouais, donc tu te lèves pas fraîche le matin. Mais voilà, mais ce qui est plus dur aussi, ce qui a mis beaucoup de temps à revenir, c'est la motivation.
Ouais.
Et ça, c'est finalement ce qui est clé. Donc c'est la motivation qui doit revenir. Et j'ai mis beaucoup de temps à trouver toute une motivation et qui revient. Hein, donc elle est revenue. J'ai mis beaucoup d'efforts. Je m'en suis rendu compte que ça revenait pas. Et donc j'ai tout fait. J'ai pris plein d'outils différents pour que ça revienne. Et c'est revenu. Ça revient. c'est dur de la maintenir, la motivation, mais elle est, mais voilà, il faut tout faire pour...
Mais alors, comment t'as fait? Parce que je pense que c'est vachement intéressant.
D'abord, il a fallu que je me rende compte que j'avais perdu, et me rendre compte qu'il y avait un espèce de puits ou de trou noir qui était là, et je voyais que c'était en train de glisser, tu vois. Alors j'ai déjà, j'avais pas trop le choix, parce qu'il fallait absolument que je sois productive, parce que moi je suis pas encore senior, je suis en tenure track, tu vois, comme on disait avant. Okay. Donc il faut absolument que je produise, donc voilà.
Oui.
Et il n'y a pas que ça, c'est qu'aussi, ben, c'est comme ça un travail qui est une passion plus qu'autre chose, c'est que finalement, on aime ce qu'on fait, et donc on aime bien être passionné par les sujets, donc c'est un état d'extase où on aime ce qu'on fait, et c'est un peu comme l'art, quoi. On se sent bien quand on fait une chose qui nous intéresse beaucoup. Et donc j'avais envie de retrouver ça, et c'était dur au début, mais je me suis forcée à aller à des conférences. J'ai des étudiants qui ont été là, donc j'ai dû former les étudiants, et j'ai dû m'obliger à trouver des sujets intéressants pour les étudiants. Et là, j'ai eu plein de collègues, de super collègues, qui ont été très, très...
Patients.
Et qui ont appuyé et qui étaient là pour ça aussi. Donc, c'était vraiment super d'avoir l'appui de pas mal de collègues.
Ça joue beaucoup, hein, mine de rien, sur le moral. Hein.
Ben oui, parce que bon, c'est bien de parfois dire, voilà, surtout maintenant qu'on est confiné, donc dire... le matin ou l'après-midi, donc ce qu'on fait avec mon mari, c'est qu'on tourne, c'est un qui travaille le matin ou l'après-midi, ouais. Et souvent le soir aussi, parce que c'est pas assez, et de jouer à l'instit, de jouer à la, je sais pas, la pâtissière, et de tout ça, et puis à un moment, tu dis, il faut quand même que je redevienne cette personne que je suis, dans le fond, une scientifique, et parfois c'est difficile, et donc j'ai eu l'appui de pas mal de collègues, et donc ça a été vraiment intéressant de dire que finalement je m'enferme dans là où je suis maintenant, où je te parle dans la chambre là avec ce petit bureau ce coin, et savoir que en parlant à des collègues sur Zoom, voilà, je redevenais une personne pensante, quoi, tu vois. Et même si mon mari vit la même chose, je pense qu'ils le vivent pas de la même façon, parce que les hommes ont pas ce changement hormonal que nous on a. Donc ils se trouvent pas dans cette espèce de balance où de dire, bah ouais, je joue l'instit, je joue le cuisinier, tout ça, et je vais habiller mon gamin, je vais l'amener aux toilettes. Mais finalement, ils ont pas eu cette perte de motivation après l'accouchement. Et donc, ils ont pas je pense qu'ils ont pas cette peur de perdre
cette culpabilité.
Exactement.
Ils en ont un petit peu, mais je pense que ouais, c'est différent, quoi. Tu dirais que ça a duré combien de temps, cette phase de reconstruction, de motivation ?
3 ans.
3 ans, quand même.
Ça dépend des gens. Hein. Moi,
on n'est pas rendu.
Ils sont accumulés, donc c'est clair que le changement de travail et tout ça, et puis, ouais.
Ouais. Bon, ben... Bah...
J'espère que c'est... Enfin, tu sais que les motivations, c'est pas une chose linéaire, donc ça peut partir, ça peut revenir, donc c'est clair que ça prend du temps, quoi. Donc,
Oui. Ouais. Bon, écoute. Et alors, donc on va embrayer sur un autre sujet, du coup. Quelle langue... Donc j'imagine que vous avez mis l'espagnol et le français à la maison,
oui.
C'est ça?
Oui, on a fait... comment ça s'appelle? One person, one language. C'est une personne, une langue. Et donc je parle à mon fils en français, et mon mari lui parle en espagnol.
Tu as noté qu'il avait développé une sorte de retard de langage, ou pas du tout?
Non, pas du tout, absolument pas.
Ok. Étant donné que ton mari, lui, ne parle pas français, comment ça se passe, la dynamique, par exemple, à table?
Mais parfois, c'est mon fils qui traduit, donc il dit « maman m'a dit que » et « papa m'a dit que », donc c'est très marrant, parce que moi, je comprends les deux. Donc parfois, il dit « mais maman m'a dit que », et maintenant, il commence à jouer aussi, mais il commence à traduire comme il veut, tu vois. ça l'arrange bien que maman ait ça, j'ai dit « non, j'ai pas dit ça ». Donc voilà, donc, il a compris les astuces. Là où on a commencé à avoir un peu des problèmes, où moi, je veux parler juste en français, c'est qu'à un moment... C'était pas suffisant d'avoir juste la crèche, et comme il allait rentrer, donc là il est rentré au lycée français, et donc on savait qu'on allait le mettre au lycée, et le lycée c'est jusqu'à 1h de l'après-midi, et donc on avait commencé avant le confinement d'avoir aussi une nounou, parce que évidemment, ben, pas travailler jusqu'à 1h,
donc
en support, ouais. Donc on avait commencé à préparer le terrain, donc on l'avait quelques jours par semaine, et donc ça commençait à être difficile pour que moi je lui parle en français devant la nounou, par exemple. Et donc c'était parfois un peu différent, où il y a des personnes qui sont un peu offusquées si je parle pas en espagnol quand ils sont là, tu vois, et donc parfois je disais, écoutez, je parle à mon fils, donc je parle en français.
Ouais. Mais tu veux dire des gens étrangers, ou tu veux dire juste des gens de la famille?
Non, bah des gens, tu sais, à l'époque on pouvait encore socialiser, on sortait et les gens, mais qu'est-ce que tu lui dis, j'ai pas compris, et pourquoi, et bien, j'écoutais, je lui parle en français, donc voilà. Et donc je lui dis, tu peux répondre en espagnol, et il a mis pas mal de temps, et parfois il comprend pas encore très bien laquelle est laquelle, il sait avec qui il parle laquelle, et parfois il confond, et parfois il est pas sûr, et donc il mélange un petit peu, donc...
C'est vrai que c'est des langues toutes les deux latines, donc tu penses que ça peut être facilement indissociable.
Mais là, il fait des choses très très marrantes. Donc il dit des choses. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour ? Et bon, il y a les faux amis. Donc évidemment, les faux amis, ils passent dans l'un ou l'autre. Il dit, il dit maman, je suis tombée. Et alors il dit à son papa, m'est tombé. Et tombé en espagnol, ça veut dire se coucher, quoi, tu vois. Alors, ouais. Il fait plein de choses comme ça, donc c'est très marrant. Hein. Il me dit non, c'est pas comme ça qu'on dit. Alors, mais voilà.
À la crèche, du coup, il parlait les deux langues ou il parlait que en espagnol ?
Que en espagnol, et beaucoup de crèches ici, donc c'était une crèche privée. Et beaucoup de crèches privées, malheureusement, selon mon point de vue, ont tendance à vouloir faire plus vers l'anglais. Donc, ils ont des espèces de cours en anglais aussi. Okay. Et souvent, c'est les anglais, c'est pas les anglophones qui les donnent, c'est les maîtresses qui apprennent les chansons, quoi. En anglais.
Okay.
Donc ça donne un truc intéressant, t'imagines l'accent espagnol en anglais.
Mais alors donc du coup, comment toi tu as renforcé le français à travers la nanny par exemple que tu as employée, elle parlait espagnol, c'est
espagnol,
ça ?
Espagnol, oui. Ben, donc moi je parlais en français. Comme je te dis, on parle beaucoup à la maison, donc c'est pas vraiment un problème. Et puis, mais donc c'est clair qu'il y a des moments où quand il commençait à parler à peine, il parlait plus français, puis à un moment il a développé avec ses amis, donc à la crèche, c'était plus espagnol. Et puis depuis qu'on a confiné, ben c'est plus français parce que malheureusement j'étais contre la télévision, mais là je pense que la télévision c'est devenu mon ami et donc il voit la télévision en français, donc c'est Petit Ours Brun, Choupi, Caillou, tout ça. Donc
ouais. Et alors donc du coup oui, ça allait être une de mes questions. Qu'est-ce que tu as comme support? Est-ce que par exemple tu peux te faire shipper des livres en français ici?
Mon frère, qui est bibliothécaire, nous envoie tous les 6 mois, ou tous les ans,
la chance,
une grande caisse de livres. Ouais.
Mais parce que j'ai cru comprendre que c'était compliqué d'envoyer du courrier au Mexique.
Ça dépend beaucoup des paquets. Donc, si t'as un concierge chez toi, c'est plus facile. Nous, on n'en a pas. Donc, on fait envoyer les paquets chez des amis qui en ont. Et il faut faire... Évidemment, tu payes l'extra pour que ce soit traçable. Sinon, là, c'est perdu d'avance. Hein, donc, parce que quand ça arrive sur le pays, les gens voient si tu peux le suivre ou pas. Et si tu ne peux pas le suivre, c'est facile de le voler. Donc on fait suivre. Ouais.
Parce que je me rappelle avoir essayé d'envoyer mon faire part de mariage à la famille de Mac. Ils nous ont dit ça ne sert à rien.
Ah, une lettre, non. Une lettre, ça ne sert à rien de le faire, non, évidemment. Ouais.
C'est vraiment étonnant. Ils vont l'ouvrir et vont le jeter. Donc, ne t'embête pas à nous envoyer un truc.
Tu l'envoies par email, c'est plus facile. Ouais. Mais le courrier, c'est pas. Les colis, Amazon passe très bien. Amazon, c'est trop efficace d'ailleurs. Mais et les colis, avec un suivi, si t'as un concierge qui est là pour récupérer le paquet, ça marche.
Ouais. Ok, bon, bah, c'est cool. Mais alors, la vie en tant que telle au Mexique, tu dirais qu'il y a quand même deux types de catégories de personnes, t'as ceux qui veulent la vie de roi telle qu'on peut l'imaginer au Mexique, et t'as ceux qui veulent plus se fondre dans la masse, c'est ça ?
Et puis il y a aussi les plus jeunes qui vont faire les zapatistas au Chiapas, oui, ça aussi. Ouais.
Quoi ?
Tu connais pas, donc t'as tous les jeunes... Donc il y a le mouvement, c'était la mode en Belgique quand j'étais plus jeune, donc t'as les zapatistas, donc c'est ceux qui sont, donc c'est un mouvement au Chiapas qui est pour les peuples indigènes et qui se base sur le nom de Emiliano Zapata, justement. Et donc, c'est tous des jeunes qui viennent faire un peu les rebelles et qui viennent appuyer la cause indigène et tout ça. Et donc, c'est très, très à la mode, toutes ces régions super sympas, un peu hippies du Mexique. Voilà, il y a beaucoup de plus jeunes, donc c'est pas vraiment pour les familles, mais c'est plutôt des gens qui font qui bourlinguent, quoi, donc qui partent à l'aventure, leur sac à dos, et qui viennent avec
les plages,
les backpackers, voilà, donc c'est ça. D'accord. C'est les plages, on vit en hippie, on va aider les indigènes, on va appuyer les causes. Il y a ça aussi, ça existe aussi, oui.
Ok.
Là, je suis plus assez jeune pour ça, oui.
Et puis, il faut avoir l'énergie, je pense, surtout.
oui, et être un petit peu idéaliste, et parfois un peu aveugle aussi, parce qu'il y a beaucoup d'autres problèmes au Mexique, mais voilà. Ouais.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, pour la suite ? Est-ce qu'on te souhaite...
On sort de confinement. Ah. Que le vaccin arrive.
Ouais.
Que le vaccin arrive, oui. Que les gens prennent conscience, hein, peut-être, oui. Comme partout dans le monde, tu vas me dire, oui.
Non, c'est un...
Ça doit être pareil chez vous aussi, très... j'imagine.
Ah oui, bah, tu vois, on est des beaux cas d'une illustration à savoir si ton gouvernement est efficace ou non. Et bah, on sait que le nôtre ne l'est pas. Au même titre que le tien.
Vous avez eu la preuve ultime que c'était le cas, hein, donc voilà.
Bah, nous, je pense que dans 12 jours, on va être très heureux de changer. On compte les jours d'ailleurs, c'est pas 12, maintenant c'est 11, de changer d'administration parce que. Il est temps. Il est temps de prosécuter les bonnes personnes et de les mettre en prison.
Ouais.
Enfin, bref. Écoute, Aurore, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton témoignage.
Mais merci à toi.
Merci beaucoup. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour poursuivre la conversation. Moi, en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!